On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce temps de culte que nous vivons ensemble. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de t'adorer, de nous réjouir autour de ta parole. Nous te présentons maintenant les enfants qui vont entendre et recevoir cette parole, Seigneur, afin que tu disposes leur cœur et leurs esprits à recevoir toutes les vérités qui viennent de toi et qui sont nécessaires à leur vie. Et de la même façon, nous te prions pour nous aussi, que nous recevions de la même façon ces vérités qui sont nécessaires pour notre vie et que ta parole, Seigneur, nous transforme, petit ou grand, à ta ressemblance, afin que nous soyons rendus parfaits en toi. Nous te remettons aussi Loïc qui va les enseigner. Dans le nom de Jésus. Amen. La semaine dernière, avec le texte de Romains 4 et les exemples d'Abraham et David, nous avons exploré la justification par la foi sous deux angles, foi et justice, c'était le premier, et foi et promesse. Cela nous a conduit à comprendre comment Dieu nous voit, mais aussi à réaliser, et c'était le titre de cette prédication, que nous n'avons aucun mérite. Ainsi sommes-nous entrés dans le mystère insondable de la grâce de Dieu pour nous. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui nous parle aussi de la grâce qui a été révélée. Alors, il a été déjà lu pendant la liturgie, ce texte. Vous voyez comme l'Esprit de Dieu travaille, parce que ce n'était pas prévu. On ne s'est pas concerté. C'est dire que c'est sûrement intéressant à entendre, important pour nous. Cette grâce nous enseigne à renoncer, à vivre et à attendre. Et il nous parle donc aussi de l'espérance qui est la nôtre, quand justifiés par la foi, nous appartenons à Jésus-Christ. Alors je vous invite à la lecture de ces quelques versets. On a lu les versets 11 à 14 et je vais y ajouter le 15. Donc Tite 2, versets 11 à 15. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Ces derniers mots sont adressés évidemment à Tite par l'apôtre Paul, mais je crois que d'une certaine façon, c'est nous tous qui sommes exhortés à dire ces choses. Ce court passage nous décrit en réalité le chemin de la maturité chrétienne. Chemin qui commence après que nous ayons reçu par grâce la révélation du salut pour nous-mêmes. Ceci est d'une importance capitale car trop souvent, les chrétiens s'arrêtent au salut et ce faisant, ils se trompent d'objectif. L'objectif, comme le décrit Paul dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, c'est la maturité, l'accomplissement, la ressemblance à Christ. Je cite le verset 13, « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Le salut, mes amis, c'est le point de départ. Nous ne devons en aucun cas nous arrêter là. Avant de considérer ce qu'est le salut, ce grand salut dont il est question, notons que ce passage nous parle de deux apparitions. D'abord l'apparition de la grâce descendue ici-bas pour apporter le salut, et ensuite l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La première apparition nous apporte le salut en grâce, la seconde, le salut en gloire. Le salut en grâce a été parfaitement accompli dans le passé et le salut en gloire le sera parfaitement dans un avenir si proche qu'il est déjà comme présent pour la foi. Et en fait, ce qui se trouve entre les deux, eh bien, c'est le chemin de la maturité spirituelle. C'est donc nos trois points. Cette prédication reprend en partie seulement celle que j'ai donnée à la Convention chrétienne des Cévennes en 2022. Le salut en grâce, c'est donc le premier point. La grâce n'est pas la bonté de Dieu, pas seulement, ni même son amour, pas seulement. Elle n'est ni un principe, ni une abstraction. Elle est, en tout cas ici, le Dieu sauveur dans la personne d'un homme, apparaissant de telle manière que tout homme a pu la voir, cette grâce, et la recevoir. Elle n'est pas apparue pour exiger quelque chose de l'homme, mais pour lui apporter une chose inestimable, le salut. Ce qui donne à la grâce cette valeur, c'est qu'elle est justement la grâce de Dieu. Elle est donc souveraine et parfaite. La grâce de Dieu est éternelle comme lui. Et le caractère de cette grâce est absolu, c'est-à-dire qu'il n'est pas dit qu'elle apportera, ni même qu'elle l'a apportée, mais qu'elle apporte. Cela fait du salut qui est parfaitement accompli une chose actuelle, immuable, qui ne peut être ni changée ni révoquée. Mais de plus, le texte nous dit qu'elle est apparue à tous les hommes. Et donc sa portée est universelle. Personne n'en est exclu, en tout cas à première vue, a priori, au départ. Cette gratuité du salut contredit toutes les pensées de l'homme depuis la chute. Jamais son orgueil ne voudra accepter que le don de Dieu ne lui coûte rien. C'est vraiment, je pense, le plus gros obstacle finalement. Accepter la gratuité. L'homme acceptera facilement un Dieu sauveur qui lui commanderait de conquérir le salut, ou qui lui offrirait son aide pour l'obtenir, ou encore qui lui enseignerait les divers moyens de l'acquérir. On trouve ça dans d'autres religions. L'homme comprendra éventuellement un salut qui serait résultat de son zèle pour les bonnes œuvres, mais jamais un salut entièrement gratuit. Jamais, comme on l'a dit la semaine dernière, un salut pour lequel nous n'avons aucun mérite. L'homme voudrait offrir quelque chose, même très peu, afin de l'obtenir et de pouvoir ensuite s'en vanter, évidemment. Mais revenons au salut lui-même. Pour le croyant, le salut n'est pas seulement le pardon des péchés qu'il a commis. Et dans une grande majorité, les chrétiens s'arrêtent à cela, à cette vérité première, et passent leur vie sans avoir connu la véritable délivrance. Cette délivrance est non pas le pardon des péchés, mais l'absolue délivrance du péché, de la racine même qui est en nous. On a vu avec les catéchumènes vendredi cette idée de l'héritage d'un mauvais gène, finalement. On a dit ça comme ça, hein. Le gène de la chute, le péché finalement. Cette délivrance est opérée en ce que Christ, qui a été fait péché à notre place, eh bien notre vieille nature a été condamnée et crucifiée dans sa personne. Et désormais nous pouvons donc nous considérer comme morts au péché. Et Paul conclut un de ses grands passages en disant « Il n'y a maintenant aucune condamnation » pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et de ce fait, toutes les conséquences du péché, l'esclavage de Satan, la mort, le jugement, ont été réduits à néant pour toujours. Voilà quelque part le salut. C'est d'une certaine façon ce qui était décrit la semaine dernière par les derniers mots de Romains 4, qui disait que Jésus est mort pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alors vous voyez, cette délivrance est déjà énorme. On n'a pas fini d'en faire le tour et de la comprendre complètement. Et pour autant, le salut est encore plus que cela. Il n'est pas seulement la délivrance du péché et de toutes les conséquences passées, présentes et futures. Il est aussi l'introduction actuelle du croyant dans la présence de Dieu. Le fait que le croyant ait reçu, comme Christ l'a été, en vertu de l'œuvre de Christ, il est reçu par Dieu lui-même. Et cette acceptation, elle a été publiquement déclarée quand Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a fait asseoir à sa droite. Et enfin, le salut est aussi l'introduction encore future dans la parfaite jouissance de toutes les choses que nous ne possédons encore qu'en espérance, mais qui vont être manifestées en la gloire. C'est finalement toutes les promesses qui restent encore à accomplir. Voilà le salut que la grâce nous apporte. Alors ça mériterait beaucoup d'être creusé, c'est pas le sujet principal du jour, mais on y reviendra. Un salut qui est donc à la fois qui a une portée passée, mais aussi actuelle et future. Le deuxième point, c'est le chemin de la maturité. La grâce a commencé par apporter le salut à tous les hommes. Et ensuite, nous dit ce texte, elle nous enseigne. C'est-à-dire que le croyant se trouve désormais, non pas comme Israël sous l'enseignement de la loi, mais sous l'enseignement de la grâce qui est apparue en Jésus-Christ. Et donc ce nouvel instituteur, on pourrait dire, nous est donné à nous qui croyons. Il n'est pas donné au monde dans son ensemble. Parce qu'il faut d'abord que les hommes soient sauvés et que par la foi ils reçoivent ce salut, pour qu'ensuite il soit possible de les enseigner. Ceux qui ont été sauvés forment désormais une nouvelle famille qui a besoin d'éducation, on pourrait le dire comme ça, qui a besoin de progresser, qui a besoin de grandir. Et la grâce s'en charge. Nous trouvons ici un petit mot, nous enseignant, ou plutôt d'après le grec c'est paideo, c'est plutôt nous éduquant en réalité. Un mot qui est de toute importance. Dieu n'enseigne donc pas le monde entier, mais les justes. Sans doute il enseigne le chemin aux pécheurs, hein, comme on lit dans le livre des psaumes, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent leurs transgressions et qui font appel à sa grâce et à son pardon. Ensuite, ils vont s'approcher de Dieu, mettre leur confiance en lui, et alors ils seront comptés parmi les humbles. Tout ça pour dire que nous ne pouvons pas attendre d'un non-croyant une maturité spirituelle, pas plus qu'une ressemblance à Christ. Je crois que c'est important de le rappeler parce que parfois on se dit, tiens, chez les non-croyants, et encore une fois au caté vendredi, on en a beaucoup parlé, il y a beaucoup de non-croyants qui font de très belles choses. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'est pas du tout, ça ne se situe pas du tout sur le même terrain. On ne peut pas attendre d'un non-croyant qu'il ressemble à Christ, même s'il est capable de belles choses. Jamais il ne pourra exister un terrain d'entente entre le péché et la grâce, parce qu'ils sont entièrement opposés l'un à l'autre. Et ça aussi, il faut qu'on le comprenne. On ne peut pas mélanger les deux. On ne peut pas se dire on prend un peu de grâce, mais on continue un peu le péché. Ce n'est pas possible. Bibliquement, ça n'est pas possible. La grâce n'améliore pas le pécheur. Elle le sauve, c'est tout à fait différent. Le péché, c'est par l'homme de Dieu, la grâce l'amène à Dieu. Le péché asservit l'homme à Satan, la grâce le libère de cet esclavage. Le péché produit la mort, la grâce donne la vie éternelle. Le péché conduit l'homme au jugement, la grâce lui apporte la justice. Le péché a pour conséquence la condamnation, la grâce ôte la condamnation pour toujours. Vous voyez qu'il n'y a rien de commun. C'est tout à fait le contraire. Alors voyons maintenant en quoi consiste cet enseignement de la grâce. La grâce nous enseigne à la fois aussi, comme pour le salut, hein, à la fois sur le passé, sur le présent et sur l'avenir. Par rapport au passé, elle nous enseigne à renier l'impiété et les convoitises mondaines, nous dit ce texte. Je vais expliquer après, hein. Par rapport au présent, à vivre dans le présent siècle sobrement, justement, pieusement, quant à l'avenir à attendre la bienheureuse espérance. Renoncer, vivre, attendre, voilà le chemin de la maturité, comme je le disais en introduction. Et là aussi, il s'agit de comprendre que c'est un chemin de vie, un chemin qui va d'ailleurs durer toute notre vie, et qu'il nous faut non seulement emprunter, mais dans lequel il nous faut persévérer, avec l'aide de Dieu et le secours du Saint-Esprit. On ne peut pas dire un jour, tiens, ça y est, j'ai réussi, j'ai terminé. Je ne crois pas. Habituellement, les trois verbes que j'utilise pour parler de la maturité spirituelle sont des verbes que l'on trouve dans le livre de la Genèse et qui sont utilisés pour parler du mariage. Il s'agit des verbes quitter, s'attacher, devenir. Alors, il y en a pour qui c'est un peu plus proche que pour d'autres, hein. Et ces verbes ne sont pas, vous le constatez, sans rapport avec nos verbes renoncer, vivre et attendre. Et le fait que les premiers soient utilisés pour parler du mariage, décrire le mouvement du mariage et donc de l'alliance, ça n'est pas non plus sans importance, au contraire. On pourrait dire de la même façon que dans le mariage, on quitte un ancien mode de vie et de relation pour s'attacher à une personne et pour devenir ensemble un foyer de vie, un couple, une seule chair, dit le texte. Eh bien, dans l'alliance avec Dieu, on quitte aussi une façon de vivre. On renonce à nous-mêmes et à tout ce qui nous a tirés loin de Dieu pour nous attacher à lui et pour vivre conformément à sa volonté. Et enfin, pour devenir une nouvelle créature en attendant son retour en gloire. Voilà, vous voyez bien, le mouvement est le même. Et cet enseignement de la grâce présent dans cette épître à Tite est entièrement pratique, il est vraiment concret. C'est d'ailleurs ce qui caractérise tout l'enseignement de cette épître. Je vous la conseille, il n'y a que 3 chapitres, c'est très pratique. Voilà, la semaine dernière, j'ai pris un texte très théologique. Aujourd'hui, nous avons un texte pratique. Toute la marche chrétienne, enseignée par la grâce, se trouve comprise en fait entre le point de départ de la vie du croyant qui est la croix et son point d'arrivée qui est la gloire. Cette marche est désormais étrangère à tout ce qui avait caractérisé notre conduite loin de Dieu. On ne peut pas juste continuer comme si de rien n'était. Bon ben voilà, ok, on a reçu le salut, on est passé par la croix, enfin en tout cas plus ou moins de manière proche et profonde, on est sauvé et puis c'est terminé. Non. Il s'agit, dans notre marche, de renoncer à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et ça, ça ne se fait pas sans nous, en fait. Hein. Dieu nous aide, mais ça ne se fait pas sans nous. Il faut évidemment commencer par renoncer à notre moi, à notre égoïsme, à notre orgueil, de vouloir nous débrouiller, de vouloir y arriver tout seul, de vouloir, encore une fois, être méritant. Et ensuite, en avançant dans le renoncement, on va pouvoir vivre en nouveauté de vie, conformément, nous dit le texte, à la sagesse, à la justice et à la piété. Nous n'appartenons plus au monde parce que nous sommes du ciel, nous sommes une nouvelle création, nous sommes son peuple. Enfin, la grâce nous apprend à attendre la venue du Seigneur pour nous enlever auprès de lui. Nous attendons l'espérance. Et c'est le 3e point que nous considérons maintenant. Et c'est le verset 13 particulièrement qui nous rappelle que la position du chrétien ici-bas est en état d'attente. L'Église attend l'apparition de son Sauveur. Ça aussi, c'est important de le rappeler, je crois. Parce que parfois, on constate que l'Église n'est pas en état d'attente, elle est en état d'animation. Elle fait des choses, elle s'occupe. Or, elle devrait être en état d'attente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire que tout ce qu'on fait a cette attente pour toile de fond. Et l'attente de ce Sauveur sera aussi glorieuse pour le Seigneur lui-même et pour ses rachetés que sa première apparition avait été humble et remplie d'opprobre et de souffrance. Et en fait, cette pensée, cette attente habituelle est nécessaire pour détruire en nous justement tout ce qui nous attire encore dans ce monde. On a besoin de développer la pensée de l'attente pour nous détacher de ce qu'il y a ici. Et pour développer la vie chrétienne et sainte dont l'apôtre vient de retracer les principaux caractères. Le réformateur Jean Calvin disait « Le Seigneur, en nous appelant au ciel, nous retire de la terre. » Voilà, c'est très simple dans les termes, mais ça va prendre toute une vie. Et la foi, effectivement, change notre compréhension du temps. Le temps présent, le temps dans lequel nous vivons, est inscrit entre deux épiphanies, deux manifestations. La première, c'est la manifestation de la grâce de Dieu, un acte qui a été posé et accompli, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, ce qui constitue notre attente. On pourrait dire, le temps dans lequel nous vivons est inscrit entre les devenus de Jésus-Christ. Voilà une façon plus simple de le dire. Et la sagesse, la justice et la piété dont il est question dans ce texte sont les fruits d'une compréhension particulière de ce temps. Ce n'est pas quelque chose, je crois, qu'on peut mettre en œuvre par nous-mêmes parce que tout à coup, on serait devenu plus parfait, qu'on aurait compris des choses. Mais c'est parce qu'on entre dans ce temps particulier et qu'on le saisit, qu'on est capable de porter ce genre de fruits avec l'aide du Seigneur. Tout comme la pureté du verset 14, qui est aussi un fruit de la grâce, un don de Dieu. En Christ, Dieu me voit pur, il me reste à devenir ce que je suis déjà, ce qu'il dit déjà de moi. Ça, c'est ce que nous avons développé dimanche dernier. Alors, la grâce est donnée, la gloire est à venir, et pour l'instant, cette gloire n'est pas encore pleinement manifestée. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ce que nous attendons, notre espérance, c'est la manifestation de la gloire. Et ça devrait normalement nous décentrer de nous-mêmes. Parce que parfois, pour ne pas dire souvent, quand nous parlons du retour du Seigneur, nous mettons l'accent sur ce que cela va nous apporter à nous. Par exemple, nous pensons à la fin du mal, des larmes, de la mort. Nous pensons au jugement des méchants ou au renouvellement de la création. Nous pensons à la vie éternelle. Et nous spéculons sur ce que nous y ferons et avec qui. Or ici, nous sommes invités à changer de point de vue. Nous n'attendons pas premièrement notre délivrance ou la fin des douleurs de la création. Même si tout cela est biblique et bon, il faut l'attendre aussi. Mais premièrement, dans ce texte, nous attendons Dieu qui révèle la gloire de son Fils. Tout le bien que Dieu pense de son Fils. Voilà notre attente. Comment est-ce que cela peut avoir de la valeur pour nous qui sommes souvent si égoïstes? Et je crois que la réponse est dans ce qui précède. C'est parce que la grâce nous aura éduqués à attendre ça, à le désirer, parce que ce qui nous importe, ça n'est plus nous-mêmes, mais Christ, et Christ seul. Parce que nous désirons de tout notre être voir la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui peut surprendre, c'est que l'apôtre nous exhorte à attendre l'espérance. C'est une formule un peu particulière, attendre l'espérance. Ça peut paraître contradictoire en soi, parce qu'on pourrait dire d'ailleurs l'espérance, les chrétiens l'ont déjà. Mais l'expression devient plus claire si on observe que le mot « espérance » est souvent employé pour parler de l'objet de l'espérance que Paul désigne comme l'apparition de Jésus-Christ. Et le terme grec qui est traduit par « attendre », il parle bien justement de recevoir quelqu'un, de laisser entrer quelqu'un, de s'attendre à l'accomplissement des promesses. Il s'agit donc, vous l'aurez compris, de rééduquer notre désir. Nous n'attendons pas quelque chose, nous attendons quelqu'un. Ou plutôt, nous attendons quelque chose qui concerne quelqu'un. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La question qu'il nous reste à nous poser, chacun personnellement, c'est « Est-ce bien là ce que nous attendons ? » Attendons-nous encore quelque chose seulement ? Et là, c'est un autre problème du monde dans lequel nous vivons. Tout est fait pour que nos espérances, nos attentes soient placées dans des choses périssables. Un meilleur travail, une belle maison, un corps plus jeune, une réussite familiale et professionnelle qui va se voir tant qu'à faire, etc. Voilà, ce texte, une fois de plus, nous invite à sortir de nous-mêmes pour regarder à Christ. Il nous invite à laisser les choses de la terre, aussi attirantes soient-elles, à ne pas nous placer nous-mêmes comme le centre de l'univers, c'est peut-être le plus difficile, mais à tout regarder et à tout considérer à travers le regard de Dieu. C'est un changement de regard. Et ce regard, mes amis, ne peut que nous conduire à fixer le Christ, à le contempler, à l'adorer. Parce que tout ce que fait Dieu, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, il le fait en Christ, pour Christ et par Christ. Et il faut qu'il en soit de même pour chacun de nous, que nous soyons occupés de Christ et de Christ seul. Que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, tout ce qui m'importe, c'est Christ et son œuvre. Voilà ce qu'on devrait dire. Martin Luther, je cite souvent cette phrase, disait qu'il nous fallait vivre comme si Christ était mort hier, ressuscité aujourd'hui et qu'il revenait demain. Et je crois vraiment que ça changerait notre regard sur le monde, sur ses joies et sur ses peines, si nous vivions de cette façon-là. Ça changerait aussi la nature de nos désirs. Plus d'attachement aux choses de ce monde, en tout cas plus le même, puisque nous sommes attendus ailleurs. Plus d'envie de se faire un nom ici-bas. Non, notre seul désir serait de plaire à Dieu et d'attendre des cieux le retour de son Fils bien-aimé, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui revient manifester sa gloire et sa magnificence. Et je termine avec la suite d'Éphésiens 4. J'en ai lu un verset tout à l'heure. Je vous lis les deux versets qui suivent. « Ainsi nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés à tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Que Dieu nous donne de contempler son Fils, l'auteur de notre salut. Que nous sachions bien compter nos jours et vivre ce temps intermédiaire entre la manifestation de la grâce et la manifestation de la gloire, en ayant les yeux fixés sur Jésus et en cherchant chaque jour davantage dans notre marche chrétienne à croître, à devenir semblable à lui, avec le secours de son esprit. Amen.